Oh oui, fouette-moi. C'est pas une invitation, ami auditeur, c'est le nom d'un blog culinaire absolument génial sur lequel je peux passer un temps infini à lire des recettes de plats équilibrés et savoureux, tout en m'empiffrant de jambon de la mer avant de décongeler une barquette de lasagne pour le déjeuner de ma fille, faute de temps, faute d'énergie. Et puis aussi parce que qu'est-ce que c'est bon le surimi. C'est pas facile aujourd'hui d'avouer qu'on peut manger trop gras, trop sucré, trop salé, pas assez bio, pas assez local, avec trop de pesticides et trop de perturbateurs endocriniens dedans, depuis qu'on est censé être parfaitement informé des normes sanitaires et que le slogan publicitaire « ça coûte pas plus cher de bien manger » a fait son œuvre. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire bien manger? On en parle jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Nadia Dam sur France Inter.
Et en plus, c'est l'heure de passer à table. Alors, autour de la table et en direct avec moi, j'accueille Nora Boisoni. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste. Vous avez publié aux éditions Nourriture Fut un essai sur le sexisme en cuisine qui s'appelle Féminisme. Et vous produisez également le podcast Plan Culinaire. Je suis pas la seule à aimer les jeux de mots entre le sexe et la nourriture. J'accueille également Étienne Ganduron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éleveur de bovins en agriculture et vice-présidente de la FNSEA. Syndicat des agriculteurs, l'un des syndicats des agriculteurs. Thibaut de Saint-Paul, sociologue, bonjour.
Bonjour.
Vous avez coécrit Les enjeux sociaux des cuisines du futur et l'alimentation de demain aux éditions de l'Harmattan. Et en duplex depuis Marseille, nous a rejoint Nicole Darmon.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'INRA et docteur en nutrition.
En duplex à Aix.
En duplex d'Aix, pardon, excusez-moi. J'ai beaucoup employé l'expression « bien manger » et j'ai fait le test autour de moi avant de faire cette émission. J'ai soumis le sujet à mes proches et les réponses varient vraiment d'une personne à l'autre. Pour certains, ça va être « manger beaucoup », pour d'autres, ça va être « prendre le temps de manger ». Pour d'autres encore qui se reconnaîtront, ça veut dire « manger avec du vin, une bonne bouteille de vin ». Nora Boisoni, comment est-ce que vous expliquez ces différentes perceptions liées à l'alimentation et qu'on n'ait pas du tout tous le même rapport à cette expression « bien manger ».
C'est très socioculturel. Bien manger, manger équilibré, ça dépend de là où on vient. Des études qu'on a faites, on sait que les gens qui ont fait moins d'études sont moins en courant sur la nutrition, sur les bienfaits des légumes, etc. vont consommer des choses peut-être un peu plus... qui font plus plaisir, qui remplissent plus que des gens peut-être qui ont fait plus d'études. C'est aussi... la façon dont on perçoit les aliments, il y a des choses qui nous font plaisir, on a l'impression que bien manger c'est se faire plaisir, il y en a qui vont penser que bien manger c'est manger des trucs avec le moins de gras et le moins de sucre possible.
Thibaut de Saint-Paul, à quoi est-ce qu'on attribue ces différences de perception? Est-ce que c'est également lié au milieu social?
Alors oui, tout à fait. Ces différences, elles sont organisées, elles sont déjà culturelles. Il y a des spécificités françaises. Si vous interrogez les Français sur ce que c'est bien manger, ils vont vous répondre d'abord en termes de plaisir, de avec qui on mange, de ce qu'on partage. Alors que si vous interrogez des Anglo-Saxons, par exemple des Américains, ils vont vous répondre plus directement en termes de santé. Et ensuite, au sein même de notre pays, il y a des différences entre milieux sociaux, les normes nutritionnelles et de santé étant beaucoup plus présentes et dans les préoccupations en haut de la hiérarchie sociale.
Nicole Darmon, est-ce que bien manger, c'est effectivement un sujet qui interroge les aspects économiques? On parle pas beaucoup d'inégalité quand on parle de l'alimentation des Français.
Effectivement, on n'en parle pas beaucoup, on en parle quand même un petit peu. Et on peut pas nier que c'est quand même plus difficile de manger équilibré. Alors moi, quand je dis bien manger, ça veut dire avoir
oui, c'est votre définition à vous, c'est quoi
équilibré? Oui, parce que bon, je vais avoir une définition de nutritionniste. Donc ma définition, ça va être une alimentation qui a des quantités importantes de produits végétaux, des fruits, des légumes, des céréales, des légumes secs, et puis des quantités mesurer de produits animaux en diversité intéressante et puis évidemment pas trop de produits gras, sucrés, salés. Mais pour arriver à cet équilibre, eh bien ça va être quand même plus facile si on a un budget disons autour de 6 euros qui est le budget
c'est le budget moyen français, des Français.
Mmh. Moyen des Français, voilà, 6-7 euros pour le budget alimentaire moyen. Et si on est au-dessus, ce sera encore plus facile. Mais plus on va descendre, et il faut savoir que les populations qui ont un faible niveau socio-économique en France, souvent vont avoir un budget alimentaire inférieur à 5, voire entre 3 et 4 euros par jour et par personne pour se nourrir, pour l'ensemble des 3 repas. Là, on peut imaginer que ça va induire des choix alimentaires plus contraints et qui vont malheureusement tendre vers des choix moins favorables à la santé.
Étienne Gogneron, vous dites que les Français avaient, jusqu'à il y a peu de temps, un rapport très latin à l'alimentation. Ça veut dire quoi ?
Alors, pour moi, très latin, c'est qu'ils pensaient aussi à leur bien-être en mangeant, alors que pour moi, la conception anglo-saxonne, elle était quand même plus environnementale. Alors, les choses se bouleversent et se réétalent entre les différents enjeux, très clairement. Et aujourd'hui, les enjeux environnementaux reviennent devant.
Oui, c'est très actuel, évidemment.
Et puis, il y a quand même un sujet dans un pays latin, mais aussi où la convivialité, la qualité de l'alimentation est très important. Et puis, moi, j'ai aussi des petits exemples concrets pour faire le lien entre, justement, le prix et la qualité de ce qu'on achète. C'est dans mon magasin de producteurs, tout simplement. Quand on discute, quand on vend autre chose, c'est-à-dire de l'explication, du contact, les gens ne parlent plus jamais de prix. Enfin, moi, je vends des œufs bio 40 centimes l'œuf, ça va faire 4 ans. J'ai jamais un consommateur qui m'a dit « Oh, c'est vachement cher ». Je rappelle quand même que le conventionnel de base, il est à moins de 20 centimes. Hein, c'est quand même le double. Cette question-là, elle revient pas. Quoi. Quand il y a une réassurance, un contact, on sait d'où ça vient, une traçabilité, un signe
là,
de qualité.
Le prix n'est plus un sujet.
Le prix est moins un sujet. Et puis il y a aussi le cet aspect de convivialité. Nous on voit bien que les gens ils consomment plus pour les week-ends. Enfin ils ont une alimentation plus festive. Ils invitent des amis, ils invitent des gens.
Et quand ils ont le temps.
Et quand ils ont le temps. Justement c'est un bon exemple parce que juillet-août ça pourrait être des mois calmes pour nous dans notre magasin de producteurs. Ben pas du tout. Juillet c'était un très gros mois parce que justement les gens ont un peu de temps. Donc ils flânent un peu, ils choisissent, ils disent tiens je vais faire autrement, je vais essayer ça alors que j'ai pas le temps d'habitude.
On continue à se demander si vraiment ça coûte pas plus cher de bien manger, c'est juste après Fouki positif.
Yeah, j'suis positif. Maman dit dans la vie, sois pas négatif. So, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, j'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Oh, oh, j'suis pas avant de remords. Même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi bien avant maman. Oh, oh, oh. On garde le smile. Pas juste pour la Nike. Faut mettre les efforts, yeah. J'mets chapeau de Goliath, yeah. Et juste une profession, yeah. J'essaie d'être comme personne, yeah. C'est pour ça que j'ai percé, yeah. Soupçon de percé, yeah. Plus une fois dans le cabanon, hey. First place au marathon. Pendant que tu fais everybody wrong. Moi j'ai work hard, j'suis resté strong. Yeah, on se rafraîchit le brain. C'est du bon pire matin. Rien à foutre des chiales. J'ai le talent, puis j'ai chance. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Maman dit dans la vie, sois pas négatif. So, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Oh, oh, j'suis pas avoir de remords. Même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. Oh, oh, j'vois que c'est les coups pour work le rap. Maintenant j'ai trouvé le boulot de rêve. Mes profs pensaient que j'étais un des rêves. Mais non, la zik est pas pour faire. C'est bien triste là, mais c'est pas comme un jeu. Des fois t'as pas toujours ce que tu veux. Fais-toi pour un film juste pour aller mieux. T'es pas Alexandre bien heureux. Il faut work out pour le pain. Faut toujours refaire le plein. Pour pouvoir racheter du thème. Pour recommencer demain. Up, bang, up, bang. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Maman dit dans la vie, sois pas négatif. So, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Oh, oh, j'suis pas avoir de remords. Même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. Oh, oh, oh.
Vous êtes sur France Inter, c'est le débat de midi, l'émission est préparée par Cyril Marchand, à la technique aujourd'hui Gilles Gaillard.
Écoutez ce qui va suivre, le vieux proverbe est changé, on ne mange pas pour vivre, Il faut vivre pour manger.
Hé, hey, à table.
Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, y'a que ça. La pire émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir à manger?
Ça m'est égal.
Les pas difficiles, vous savez.
Bon. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs. Des cornichons.
Salade of tomatoes. Oui. Beaujolais nouveau!
Cet homme est incapable de faire la différence entre une seule meunière et une potée auvergnate!
C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde! Alors que ça, c'est bon!
C'est bien dégueulasse, toute cette bouffe-là, hein?
Ça se bouffe pas, ça se mange!
Eh oui, c'est moi le père du crasse! Je vais vous montrer comment je prépare la bonne gerboulade d'escargot à l'ancienne. Comme le préparait mon grand-père.
Je veux manger les légumes de mon jardin, recueillir l'huile de mes oliviers, gober les œufs frais de mes poules, m'enivrer du vin de ma vigne.
Tu vois, la liberté, c'est de pouvoir manger ses carottes râpées dans l'emballage.
Il ne faut pas mélanger les lipides et les glucides.
Oh, avais-je la tête.
Ça n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit bouffer de la merde. Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Actuellement, chez Casino Cafeteria, pour un quart de poulet acheté, un quart de poulet offert.
Tu vois, ça me coûte pas plus cher de bien manger.
Quand l'appétit va, tout va.
Et merci à Lucie Lemarchand pour la préparation de ce petit frichti sonore. Cette injonction au bien manger qu'on interroge aujourd'hui, Nora Boisouni, est-ce qu'elle a des effets pervers et culpabilisants sur les consommateurs et devient finalement contre-productive?
Les injonctions, les slogans du PNNS, le programme Nutrition Santé, qui dit 5 fruits et légumes par jour, qui assène ça, pas manger trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, c'est une double injonction culpabilisante pour les familles qui n'ont pas les moyens de payer 5 fruits et légumes par jour et manger ça à chaque repas, notamment quand on a des enfants, c'est encore plus compliqué. Il y a un chiffre, 15% des ménages français les plus riches consomment plus 12 kilos de légumes par an que les plus pauvres. Il n'y a pas un choix, c'est pas que les pauvres n'aiment pas les légumes, c'est bien qu'ils n'ont pas les moyens, ou peut-être pas le savoir-faire aussi. Parce qu'il y a aussi le savoir-faire au-delà du coût, au-delà des coûts induits comme l'eau, l'électricité, etc. Il y a le savoir-faire, qu'est-ce qu'on fait avec une betterave, qu'est-ce qu'on fait avec un céleri branche, je veux dire, c'est pas inné. Et donc il y a des milieux, forcément, qui sont plus au courant de l'apport nutritionnel d'un céleri et comment on le prépare. Parce qu'ils ont vu les parents le faire, parce qu'ils ont pu aller au restaurant pour le faire, parce qu'ils ont le temps d'aller sur Internet pour chercher comment on part un céleri rave, et d'autres non. Donc effectivement,
il y a peut-être aussi une question d'équipement, tout le monde n'a pas nécessairement...
Alors ça, c'est les coûts auxquels on ne pense pas. Quand on vit en hôtel social, on n'a pas de cuisine. Donc pour cuisiner, c'est compliqué. Quand on n'a qu'une plaque de cuisson, ça prend beaucoup de temps de cuisiner. Quand on est ric-rac tous les mois pour payer la facture d'eau, d'électricité, on ne fait pas mijoter un truc pendant une heure ou retirer au four pendant 2h30. Et quand on a un travail qui nous prend beaucoup de temps, qu'on rentre très tard le soir et qu'on a des enfants, par exemple, eh bien, pour que l'enfant mange seul, on fait un plat froid, si on n'a pas de micro-ondes, pour pas qu'il le cuise, sinon c'est dangereux.
Thibaut de Saint-Paul, comment ça rejaillit sur les foyers, ces injonctions sanitaires et sociales aussi?
Alors, elles sont perçues différemment selon les milieux sociaux. Et dans les milieux les plus défavorisés, ces injonctions, elles sont à la fois présentes et puis lointaines. Parce que on est plus souvent, quand on a des difficultés dans le présent, donc des conséquences à moyen ou long terme, elles vous apparaissent, elles peuvent être présentes, mais un peu plus lointaines ou secondaires. Et puis, il y a d'autres enjeux. Quand vous êtes une mère de famille et que vous avez des moyens limités, peu de domaines dans lesquels vous pouvez faire plaisir à vos enfants, finalement, leur offrir la barre chocolatée, c'est plus important de pouvoir leur faire plaisir aujourd'hui, tout de suite maintenant, que de penser aux normes qui sont lointaines et à la santé dans quelques années de cet enfant. Et donc, ça s'entrechoque avec ce qu'on disait juste avant, cette responsabilisation de chacun, du mangeur, qui tend à une culpabilisation.
Nicole Darmon.
Oui, en fait, j'avais envie de réagir à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au acheter des œufs chez les magasins producteurs. Voilà. Il faut quand même savoir que 83% des dépenses des ménages encore aujourd'hui se font en hypermarché, supermarché et hard discount encore.
Oui, on pourrait avoir...
Quand on dit que le prix n'est pas un sujet... Ça dépend pour qui. Il y a non, des gens pour lesquels le
C'est exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est pas un sujet, dans certaines conditions, c'est-à-dire en circuit court, en ayant un discours accompagnant le produit, et le questionnement ne vient pas.
Et tous les Français ont-ils accès à ça?
Bien sûr que non. C'est justement la difficulté. C'est-à-dire que la France a construit un réseau de circuits de distribution basé autour de la grande distribution, peut-être la plus puissante du monde à une époque, même si elle est en train de fléchir aujourd'hui. Mais le modèle a été construit par des très très grands opérateurs qui ont d'ailleurs essayé de retranscrire ce modèle à l'étranger, en Chine, et qui ont fait perdre beaucoup d'argent aux consommateurs et aux producteurs, hein, je pense à Carrefour notamment. Mais ce modèle-là, il faut le déconstruire, mais c'est très compliqué, et puis ça coûte plus cher quelque part, parce que ces enseignes de distribution sont tellement grandes et tellement puissantes qu'elles ont travaillé sur la logistique. En fait, ce sont pas des vendeurs d'aliments, ce sont des logisticiens extrêmement solides, et quand on refait des circuits plus courts, on revient sur de l'artisanal, ben ça coûte un peu plus cher parce qu'on a des petits volumes et tout, donc il faut retravailler autrement. Il y a plein de schémas à reconstruire, et puis il y a la difficulté des grandes agglomérations où l'éloignement il est structurellement plus fort de la production.
Mais on a une réaction de Pauline, une auditrice, à propos de la distribution. Justement, elle voudrait savoir si le problème de notre alimentation est lié à l'implantation massive et à l'hégémonie des supermarchés. Nicole Darmon, bien manger, c'est incompatible avec notre système de distribution actuel?
Non, moi je ne pense pas ça. Je pense que quand on va dans un supérette en ville ou un supermarché un peu plus grand, on a accès à une grande diversité d'aliments qui permet d'avoir un caddie équilibré et un repas équilibré. Donc je ne vois pas en quoi ça nous empêche de manger équilibré, d'avoir ce système de distribution actuellement.
Étienne Gagnon.
Oui, ce qui est complètement vrai. Hein. Aujourd'hui, la grande distribution est un acteur essentiel. Le problème, c'est qu'ils avaient et qu'ils exercent encore aujourd'hui un espèce de monopole, à la fois sur la distribution elle-même, mais aussi sur la fixation des prix. Et c'est eux qui ont mis les producteurs en difficulté depuis 30 ou 40 ans en imposant en fait des prix en dessous des coûts de production, donc qui ont ruiné des milliers de familles de producteurs en France. Et là, la grande distribution est excessivement fautif. C'est pas pour ça que le système va changer du jour au lendemain et qu'ils sont pas des acteurs. Ils vont devenir, nous on l'espère, ils vont reprendre des pratiques plus morales. On le voit, il y a certains distributeurs, Système U, qui font des efforts. Il y en a d'autres qui sont encore très très loin, notamment Leclerc et Carrefour, qui font aujourd'hui beaucoup de pubs et beaucoup de marketing. Mais pour payer
autour
les
du
gens,
bio, autour du bio,
notamment en mettant le bio très fortement, le bio le moins cher et tout. Bon, voilà, ils utilisent les mêmes recettes que ce qu'ils utilisaient depuis 30 ans avec le bio. Et on sait que ça va finir au même endroit. Donc il faut se poser les bonnes questions maintenant.
Nora Boisouni, vous avez fait un exercice pour votre podcast. Vous êtes rendue dans 3 magasins, dans un Lidl, donc dans un Hard Discount, dans un supermarché et...
À Monoprix, dans le 11e, et à Zingam, qui est là où je fais mes courses de fruits et légumes, à Paris, dans le 11e toujours, qui est des produits locaux, beaucoup de produits en biodynamie ou en bio. C'est un tout petit magasin, il y en a 2 à Paris.
Et Quels sont les résultats de ce test,
ouais. Évidemment que les tests ont prouvé que, Lidl, c'est moins cher qu'aller prendre ses fruits et légumes. Alors, tout était de saison, évidemment. On a fait un minestrone d'hiver, parce qu'on avait tourné ça l'hiver. Évidemment, le kilo de poireaux est moins cher à Lidl qu'à Monoprix, où il est excessivement cher, et aucun des deux n'est du bio, et moi mon kilo de poireaux bio était légèrement plus cher, mais pas beaucoup plus. Donc oui, ça coûte moins cher d'acheter des légumes à Lidl que d'aller chercher des légumes dans une petite épicerie locavore. Il y a aussi le temps, c'est-à-dire que on a parlé du temps tout à l'heure pour faire des repas, mais il y a aussi le temps pour faire ses courses. Et effectivement, tout le monde n'a pas le temps d'aller à 4 endroits différents le samedi ou le dimanche pour faire ses courses. Donc les gens privilégient autre chose. Je voulais juste rebondir très très rapidement sur les supermarchés et effectivement les prix fixés par les hypermarchés pour dire que c'est psychologiquement, ça a un impact catastrophique sur la population. C'est-à-dire qu'en fait, on est habitué à des prix tellement bas en supermarché qu'on trouve ça démesuré quand on va acheter ses fruits et légumes, même chez le producteur, donc sans intermédiaire. Et ça, je trouve ça catastrophique, en fait, de se dire, mais on cherche vraiment le prix le plus bas. Et je comprends quand on a un budget très serré. Mais du coup, on a des attentes complètement démentielles.
Parce qu'on fait forcément le lien entre le coût et la qualité du produit. Il y a toujours peut-être ce réflexe qui consiste à penser qu'une marque de hard discount, ça va être moins bon.
Je sais pas si quand on n'a pas d'argent, tous les mois et qu'on vraiment on économise au centime près si on se pose la question de la qualité. Comme on dit, un légume pas bio, c'est mieux que pas de légume du tout. Donc déjà, ça serait important de le rappeler.
Qui dit ça? Vous le dites, mais...
J'ai entendu cette phrase, vraiment je ne sais plus où, je ne sais plus qui l'a dit, mais je trouvais ça hyper juste.
Parce qu'on entend également l'inverse, hein, comme, voilà. comme proposition.
Mais comme si, comme oui, mais alors oui, il y a des pesticides partout, mais dans ce cas-là, on arrête de vivre aussi. Non, mais je veux dire, il faut arrêter de... Les injonctions, elles vont vraiment très très loin. Donc on colonise des gens qui n'ont pas les moyens de se payer du bio, mais les moyens de se payer des légumes, en leur disant, mais en fait, vous donnez toujours de la merde à vos enfants, et je trouve ça vraiment grave. En revanche, ce qui est prix et qualité, effectivement, c'est ce que disait Étienne, c'est quand on explique
Étienne
à quelqu'un...
Leniron.
Oui, c'est que quand on explique à quelqu'un qui a les moyens de se payer des œufs bio, pourquoi cet œuf-là, comment il a été fait, à qui l'a fait, il vient d'où, etc. Oui, on est prêt à dépenser un peu plus parce qu'on a déjà les moyens de le faire. Mais le fait de tirer les prix vers le bas, ce qu'a fait la grande distribution, je trouve ça vraiment grave parce que psychologiquement, ça devient de plus en plus compliqué de faire comprendre aux gens quel est le vrai prix. Ouais. De la bouffe.
Je pense que le
Étienne Gagnerin et puis Nicole Darmon voulaient
réagir. Le sujet, il est vraiment là. C'est-à-dire qu'on est arrivé, en gros, autour de 10% du budget d'un ménage, globalement, pour l'alimentation, ce qui est excessivement faible, puisque au sortir de la guerre, on était autour de 30 à 40%. Donc, est-ce qu'avec 10%, voire moins de 10%, on peut avoir autant d'injonctions sur son alimentation, sans ceci, sans cela? Voilà, on est vraiment au fond du truc. Et je pense que la grande distribution, hein, je condamne pas le système de distribution en tant que tel, mais la manière dont ils ont pratiqué, notamment sur les prix, est toujours cette course à la baisse. C'est-à-dire, en fait, c'est à la baisse de valeur. Et à force d'aller toujours plus bas, on fait perdre de la valeur à tout le monde.
Nicole Darmon.
Oui, merci de me donner la parole. Je voulais réagir sur plusieurs choses. D'abord, pour le bio, et effectivement, c'est une certitude qu'il vaut mieux manger des fruits et des légumes, même pas bio, que de manger, absolument vouloir de manger des légumes bio. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui a estimé le nombre de cas de cancer évités si la moitié de la population américaine qui mange pas suffisamment de légumes en manger 100 grammes de plus, 100 grammes de fruits et plus, et 100 grammes de légumes aussi. Et en fait, ça éviterait 20 000 cas de cancer. Et le nombre de cas de cancer induits par cette augmentation de la consommation de fruits et de légumes, parce que ils ont considéré que c'est des fruits et légumes tout venant, donc pas spécifiquement bio, et de 10 cas seulement. Donc en fait, en mangeant plus de fruits et de légumes, on va éviter 20 000 cas de cancer. Et on va risquer peut-être d'avoir 10 cas en plus parce que c'était des fruits et légumes pas bio. Ouais, donc je pense qu'il faut garder en mémoire que c'est la dose qui fait le poison. Et ce n'est pas les quantités de pesticides. Elles sont quand même extrêmement faibles. Hein. Ce sont des traces qu'on va trouver dans les aliments conventionnels. Et donc, il ne faut pas raisonner en absence-présence, mais en dose. C'est toujours la dose qui fait le poison. Et d'ailleurs, pour l'alimentation aussi. Voilà, et ça c'est un principe assez général et très intéressant et utile en nutrition particulièrement.
Thibaut de Saint-Paul, ces normes sanitaires, elles escamotent effectivement une autre dimension qu'on a commencé à évoquer, c'est celle du temps qu'on va passer en cuisine et celle du temps qu'on va passer à faire les courses. On parle beaucoup de la charge mentale des femmes et de fait, c'est effectivement elles qui majoritairement s'occupent des courses. On rajoute encore quelque chose avec ces injonctions.
Tout à fait. Pour comprendre les comportements des consommateurs en France, il faut bien avoir en tête cet arbitrage entre les ressources économiques dont on parle depuis tout à l'heure et puis ces ressources temporelles. Et puis une autre dimension qui a été évoquée qui est celle des compétences. Avec le temps et l'argent dont je dispose, qu'est-ce que je suis capable de faire? Et en réalité, quand on regarde ce qui se passe en termes de comportement et les inégalités alimentaires qu'évoquait Nicole Darmon tout à l'heure, elles sont bien réelles et en bas de la hiérarchie sociale, généralement, on a évidemment des ressources économiques inférieures, on a des compétences, par exemple pour la cuisine, qui sont moindres, et très souvent, on a aussi ces contraintes sur le temps. Et donc, on arbitre, effectivement, faire ses courses sur les marchés, dans les petites épiceries, ça prend du temps. Cuisiner, ça prend du temps. Et donc, est-ce que je dispose dans ce temps quand j'ai un travail fragmenté, que je suis caissière, que je rentre, qu'il faut s'occuper des enfants? Pas forcément. Donc, c'est possible de manger bien avec un budget moindre, mais ça prend plus de temps.
Il y a un chiffre qui apparaît assez peu dans les débats quand on parle de l'alimentation des Français. 8 millions de personnes, plus de 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, et donc 2,50 euros à 3 euros par jour pour se nourrir. Ça veut dire que pour 14% de la population, la question n'est pas de bien manger, mais de manger tout court. Étienne Gurduron.
Non mais je.
Beaucoup de débats sur le bio, sur la qualité des aliments. Là, on est dans la précarité alimentaire.
Tout à fait. On a eu beaucoup de débats autour des états généraux de l'alimentation il y a maintenant à peu près un an avec la loi Egalim qui est sortie et les différents textes qui suivent derrière. Et il y avait aussi les associations qui s'occupent d'obésité et tout. Et on voit bien qu'il y a. Il y a une espèce d'idéologie un peu élitiste autour de l'alimentation, et puis il y a les gens qui sont dans le concret et qui sont, comme vous le dites, liés à un budget très très faible, et puis avec des comportements sur des produits transformés. C'est-à-dire qu'on a peu d'argent, mais comme on n'a pas les compétences, on n'a pas les outils pour construire de l'alimentation, on achète des choses transformées qui sont encore pires, on achète des sodas qui sont encore pires pour l'alimentation. Et moi, j'ai été très marqué par l'exposition d'un photographe autrichien qui a fait le panier alimentaire d'une famille à travers une cinquantaine de pays dans le monde, et on part de 1 dollar au Mali à 350 dollars en Allemagne, et on voit par exemple le Mexique, il y a, alors je vais encore citer une marque, il y a 25 bouteilles de Coca-Cola pour la semaine.
Il faut en citer deux autres, je crois, maintenant.
C'est-à-dire que les mômes ne boivent que du Coca-Cola toute la semaine. Alors c'est aussi parce qu'il n'y a peut-être pas d'eau potable et tout, mais n'empêche que quand on ne prend que des aliments très transformés, très très sucrés, il y a véritablement des problèmes. Et je reviens au sujet principal, effectivement, le sujet c'est bien qu'il y ait de plus en plus de bio, le sujet principal c'est de manger des légumes, qu'ils soient bio ou pas bio, déjà au départ, je crois que... Et ça, il faut remettre ça à plat, c'est très important. Et pourtant je suis producteur bio, mais il faut pas non plus avoir cet intégrisme bio, il y a que le bio et le reste ne compte pas. Moi je dis, par exemple, le local c'est très important, et de toute façon, quand il y a du local, il y a du bio avec, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est là-dessus qu'il faut travailler.
Bertrand réagit à propos du bio précisément, voilà ce qu'il dit. Le bio n'est-il pas devenu une nouvelle stratégie marketing de l'industrie agroalimentaire pour séduire de nouveaux consommateurs?
On le voit bien avec...
C'est aussi cynique et opportuniste que ça.
Bien sûr que oui. Les gens pensent que parce qu'une tomate en décembre, elle est bio, il faut absolument l'acheter, que c'est pas grave. On a vu ça avec la tradition progressive des légumes bio en serre, avec les tomates notamment, qui est quand même le truc qui est sur tous les étals, tous les mois de l'année, dans tous les pays du monde. C'est pas parce qu'une tomate est bio qu'elle est de saison. Et en fait, le marketing fait qu'on tend à confondre la qualité d'un aliment, la saisonnalité d'un aliment,
bio. Par quel message marketing?
Parce que le bio, bio ça veut dire vie déjà, donc on dit aux gens, si vous mangez bio, forcément c'est bon pour vous et c'est bon pour la planète.
Mais manger... On se rappelle d'une marque de yaourt, on continue de dire des marques bio, qui n'étaient absolument pas bio, non, mais ça fonctionnait dans l'esprit du consommateur.
C'est du greenwashing complet, donc si on dit aux gens que c'est bio, donc c'est bon pour la planète, le message il est bien ancré dans nos cerveaux, donc si c'est bon pour la planète, je vais l'acheter. Donc je me fous que la tomate elle soit là en décembre. On m'a dit que c'était bon, donc il y a pas de problème. Je voudrais juste rebondir sur le fait de se nourrir bien et se nourrir. Effectivement, là on parle de bien manger, mais déjà il faut manger. Et donc effectivement, quand on a un prix plancher d'un repas qui est à 3,50 € pour 3 repas. Ce que je voulais dire, c'est que il y a le prix, le rapport prix calorie. Moi, j'ai découvert ça en fait avec les travaux de Nicole Darmon, notamment dans le podcast qu'on a fait sur le coût de bien manger. Le rapport prix calorie, c'est-à-dire que oui, un kilo de poireaux c'est moins cher qu'un kilo de chips, évidemment. Sauf que ça vous nourrit pas pareil. Il n'y a pas autant de calories dedans. Donc il y a des gens qui ont besoin d'être rassasiés et on a besoin d'un nombre de calories par jour pour faire fonctionner son corps et son cerveau. Et on l'atteint pas avec juste un kilo de poireaux. Donc oui, des gens vont préférer acheter des chips et des sodas. Et il y a aussi la dimension plaisir quand on n'a pas les moyens de se payer des sorties, des vacances. Quand on a des enfants, surtout, on leur fait plaisir autrement. Pour pas les marginaliser, ils ont des baskets de marque, ils ont du Coca, ils ont un iPhone, parce qu'on peut pas partir en vacances, quoi.
Et puis après, on va vraiment arrêter de citer des marques. Thibaut de Saint-Paul.
Oui, il faut voir que la situation du consommateur, de la mère, du père de famille qui fait les courses, elle est compliquée. On est face à une multitude de prescriptions, parfois antagonistes. On lit une quantité de choses sur Internet, on voit une quantité de choses à la télévision. Donc finalement, je sais plus ce qui est bon pour moi. Est-ce que je donne à manger à mes enfants, si c'est bon ou pas?
On est saturé d'informations, il y a trop d'informations sanitaires, alors qu'il y a peu, on déplorait le manque de messages sanitaires et de transparence.
Il y a une multitude d'informations et une difficulté à savoir quels sont finalement les messages pertinents. Et avec parfois des préconisations qui vont être d'origine variée, de sites plus ou moins sérieux, repris par ma belle-sœur, repris par mon collègue. Et finalement, autour de ces prescriptions, je ne sais plus ce qui est bon de manger ou pas. Et donc le consommateur, il se raccroche à des signaux qui lui semblent forts. Et le bio, ça participe à ça. On dit bio, c'est bon, c'est simple. Et du coup, je sais que c'est quelque chose que je dois acheter. Mais la situation du consommateur aujourd'hui dans nos sociétés, elle est compliquée.
Nicole Darmon, vous voulez intervenir?
Oui, merci. Je voulais d'abord, par rapport à la baisse de la part du budget alimentaire, on en parle tout le temps. En fait, il faut pas quand même oublier que la baisse de la part du budget de l'alimentation dans un pays, ça reflète aussi son niveau de richesse. C'est-à-dire que plus un pays est pauvre, plus la part du budget consacrée à l'alimentation est élevée. Donc, le fait que la part du budget consacrée à l'alimentation baisse veut bien dire que finalement le pays s'est enrichi. Mais il y a aussi le fait que les postes logement et transport sont vraiment devenus prépondérants, et notamment le logement pour les personnes qui n'ont pas la chance d'être propriétaires de leur logement. Et d'autre part, je voulais aussi dire que je trouve assez violent de dire que les personnes pauvres n'ont pas les compétences. Et d'ailleurs, à cet égard, je voulais vous signaler, il y a un rapport du CREDOC qui est extrêmement intéressant, où ils ont regardé comment se débrouillaient les gens qui avaient un revenu inférieur à ce qu'ils appellent le budget de référence. Alors, le budget de référence est calculé pour l'ensemble des dépenses, mais en regardant l'alimentation, ils ont calculé que c'était 5 euros par jour. Et ils ont regardé comment se débrouillaient les personnes qui font avec moins de 5 euros. Ils les ont interrogés, il y a eu des entretiens approfondis, etc. Et au contraire, ce qu'on voit, c'est beaucoup de compétences, énormément. Ils vont être très attentifs au rapport qualité-prix. Ils vont, par exemple, acheter en gros. Ils vont, par exemple, cuisiner, préparer à l'avance et congeler. Et puis, malheureusement, parfois, quand le budget est très serré, se priver de viande ou de poisson pour que les enfants puissent en avoir. Donc, le mal manger n'est pas que l'apanage des populations pauvres. Il y a plein de gens qui mangent mal. Et quand on a un budget très très serré pour s'alimenter, eh bien au contraire, il faut faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. Et la plupart des gens que nous on a rencontrés dans nos études, notamment dans les quartiers nord de Marseille, font plutôt des prouesses d'ingéniosité et d'astuces pour pouvoir se nourrir correctement.
Alors, vous n'allez pas tellement apprécier la citation que je vais vous livrer. Perico Legas, qui est chroniqueur gastronomique et qui a un avis sur le sujet, affirme que la malbouffe n'est pas une question de revenus, mais de niveau de diplôme. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette affirmation, Thibaut de Saint-Paul, et qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, Nicole Darmon a tout à fait raison sur la question des compétences et de l'ingéniosité qu'on est obligé de déployer quand on a un budget limité. En revanche, il y a un sujet de transmission et notamment de compétences, par exemple pour savoir cuisiner. Et quand on étudie les plus jeunes, on observe qu'avant on avait des transmissions alors plutôt du côté grand-mère, mère-fille, et qu'aujourd'hui ces transmissions-là en termes de cuisine, alors faut pas généraliser non plus, il y a des différences selon les milieux sociaux, selon les origines ethniques, et c'est des choses qui persistent, mais qui sont moins dans les choses qu'on transmet aujourd'hui aux jeunes générations. Et donc on observe notamment chez les plus jeunes là aussi des difficultés en termes de compétences culinaires et qui sont bien réelles.
Et donc là, on ne parle pas de diplôme, mais de transmission et d'éducation.
Voilà, exactement.
C'est pas la même chose.
Voilà, exactement. Et le sociologue, derrière le diplôme, en réalité, on met beaucoup de choses qui sont de nature différente. Et évidemment, c'est pas qu'une question de diplôme.
Le débat de midi continue, mais juste avant, Jack Harry, les tomates, évidemment.
Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs. Les diplomates, les boxeurs. Délaissent les patates pour se fouiller garlate. La tomate en salade ou tomate farcie. À l'opéra, en chantant la Tosca. Un grand ténor ayant manqué le la. Ce soir-là, des tas, sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé.
la radio. Vite un discours commence en par ces mots. Supprimons la bomba, supprimons la la la, et remplaçons la par ce fruit délicat. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. À la tombe qui éclate, préférons les tomates. Les tomates, ça fait mal quand ça tombe sur le nez.
Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, mon amour.
C'était Jacquary, les tomates, grâce à la programmation musicale signée Thierry Dupin.
Le débat du midi. Nadia Dame. Sur France Inter.
Nora Boisouni, on parle donc de l'alimentation, de notre rapport à l'alimentation et des clichés. Il y a un cliché que vous vouliez soulever en particulier qui concerne les mères et une marque de fast-food.
Oui, en fait, il y a une culpabilisation, une stigmatisation des mères qui ne sont pas aux petits soins, qui font le don de soi, qui vont faire à manger tous les jours des choses maison à leurs enfants. Moi, j'ai entendu plusieurs fois dans un fast-food très connu, des gens réagir. Alors quand il y a un papa seul avec ses enfants qui les emmène, c'est « Oh regarde, c'est mignon, il s'occupe de ses enfants, c'est une sortie exceptionnelle, on est samedi, ils vont à ce fast-food ». Et j'ai entendu des gens vraiment jeter des regards noirs quand c'est une maman qui est avec des enfants et qui ont eu ces remarques-là, qui le disent à haute voix, qui disent « Mais enfin, elle pourrait quand même leur faire à manger, surtout s'il y a des enfants un peu en surpoids ». Alors là, c'est tout de suite, c'est une mauvaise mère, quoi. Et il y a vraiment ce stigma-là, puisque... aujourd'hui encore, il y a une divinification de la femme au foyer, la femme qui fait à manger à ses enfants. Les femmes doivent le faire. Si on donne des petits pots déjà achetés, mon Dieu, qu'est-ce que t'as pas fait? Et ça, c'est vraiment un problème quand on sait que c'est les femmes qui s'occupent des tâches domestiques en large majorité par rapport aux hommes.
Étienne Gagneron.
Oui, alors il y a quand même un élément positif, c'est le fait que l'alimentation redevient un sujet central dans nos discussions, dans notre vie de tous les jours. Et justement, je pense que ça va amener à accélérer le retour à l'équilibre. Peut-être pas le retour à l'équilibre, ça mettra encore des décennies, mais je pense que ça va se modifier parce que voilà, quand on met de la valeur dans de l'alimentation, quand le fait de faire à manger des bons aliments, des choses qu'on a été chercher, voilà, avec des signes de qualité auxquels on croit, c'est une tâche qui devient un peu plus noble et je pense que tout le monde peut se l'approprier plus facilement. Donc il y a quand même un élément positif là-dedans.
Thibaut de Saint-Paul.
Effectivement, c'est ce qu'on observe dans les données de l'INSEE, c'est-à-dire que les hommes s'engagent plus, mais les hommes s'engagent plus sur les activités dès lors qu'elles deviennent valorisées. Et quand l'alimentation devient valorisante, quand la cuisine devient valorisante, on observe ça aussi sur les enfants, les hommes vont s'engager plus. Et donc c'est un rééquilibrage, mais un rééquilibrage qui cache d'autres inégalités, puisque la cuisine du quotidien, elle reste quand même très très largement l'apanage des femmes encore aujourd'hui.
Nicole Darmon. À propos de la façon dont on parle de faire la cuisine.
Je suis assez intéressée par cette question de la cuisine parce qu'on a fait une petite étude récemment pour voir si vraiment faire la cuisine représente un avantage économique pour les consommateurs. Alors, il y a plein d'avantages.
Par rapport au plat préparé, vous voulez dire, c'est ça?
Oui, par rapport au plat préparé. Donc, faire la cuisine, effectivement, ça va permettre de maîtriser les quantités de sel, de sucre et de gras qu'on met quand on cuisine. Ça peut aussi contribuer à valoriser l'estime de soi, le lien social, le lien familial. Et puis, par contre, en termes d'économie, finalement, c'est assez restreint puisque ça permet d'économiser. On a estimé à peu près à 60 centimes d'euros pour quand on cuisine un plat pour 4 personnes. Et ça, c'est évidemment quand on compte pas le temps, le coût du travail. Parce que si on se met à compter le temps, alors là, ça va coûter beaucoup plus cher et du coup, ça va être considéré comme hors de prix puisque cuisiner 4 portions, si on compte le temps qu'on y passe, ça va être plus de 5 euros. Donc, il faut faire attention à ça, d'autant plus que, comme vient de le dire Thibaut de Saint-Paul, c'est principalement du temps féminin, puisque le temps moyen passé à la cuisine... aujourd'hui est de l'ordre de à peu près autour d'une heure, hein, selon qu'on ait un couple ou avec des enfants ou pas, donc une heure par jour, mais 75% de ce temps est encore féminin. Donc faire des injonctions pour cuisiner, culpabiliser les gens parce qu'ils ne le font pas toujours, ça revient à culpabiliser les femmes en fait.
Nora Boisouni, vous confirmez j'imagine?
Bah oui, bien sûr, on le voit bien. Il y a des femmes qui viennent d'être maman, par exemple, souvent, et qui se disent, mais enfin, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à mon bébé, une fois qu'il a arrêté le lait, par exemple, qu'il faut que je fasse des petits pots maison, qu'est-ce que je donne à manger, j'ai pas le temps, qu'est-ce que, et les gens autour, et les pubs, etc., Instagram, les réseaux sociaux, surtout. Parce qu'on parle pas de ça, mais, il y a une résurgence des arts ménagers et c'est beaucoup les femmes, il y a des hommes aussi, mais beaucoup les femmes qui s'en emparent, donc que ce soit faire son propre pain, ses yaourts, etc.
C'est devenu sexy, la nourriture aujourd'hui. Je parlais de, en début d'émission d'un blog que j'adore avec de très belles photos. Oui, ça fait rêver, c'est pas du tout la cuisine d'antan telle qu'on l'a figurée.
C'est devenu valorisant.
C'est sexy.
En fait, c'est un travail invisibilisé qui devient visible par les réseaux sociaux et donc on a une validation extérieure d'un travail qui autrefois n'était pas montré. Il y a un livre très bien qui s'appelle New Domesticity, d'ailleurs, qui écrit par Emily Machar, une autrice américaine, qui est très très intéressante là-dessus, sur les femmes aujourd'hui. Beaucoup des femmes blanches, privilégiées, évidemment classe moyenne, qui ont le temps de faire leur propre brioche, etc. Mais qui trouvent une validation et une visibilisation de leur travail via les réseaux sociaux.
Et ça dit aussi quelque chose de ce qu'on assigne au foyer, peut-être, Thibaut de Saint-Paul ? Cette mode, effectivement, des gâteaux maison, des confitures maison. J'ai des amis de 20 ans, de 25 ans, qui font leur propre confiture.
Oui, ça change aussi le rapport à l'alimentation, parce qu'ils passent du coup beaucoup plus par l'image. Vous voyez, on va au restaurant, on va photographier son plat, ouais. Et ça passe presque avant le goût de ce qu'on va avoir dans l'assiette. Ce que je voulais appuyer aussi, c'est qu'on parlait de ce poids qui pèse particulièrement sur les femmes, mais en réalité, il y a un double stigmate, parce que ces femmes-là, on le sait, défavorisées, en plus, sont plus souvent en surpoids et obèses, et donc on a cette pression qui est à la fois sur l'alimentation et les modes alimentaires, et puis quand elles sont mères, de ce qu'elles vont donner à manger à leurs enfants, mais le plus souvent, au travers de leur corps, elles ont elles-mêmes cette pression sur les normes corporelles, l'apparence, le surpoids, et donc ça doublonne en quelque sorte.
Il y a une catégorie de la population dont on n'a pas encore parlé, c'est les étudiants qui là aussi héritent de pas mal de clichés. On a effectivement l'image de l'étudiant qui se nourrit mal. Charline, étudiante nous écrit, elle vit à Paris, pour nous dire qu'il n'est pas toujours évident de réussir à trouver un équilibre entre une alimentation saine et un budget mensuel extrêmement limité. Le CROUS, 3,25€, ça représente un coup de pouce, mais pas pour tous les repas. Étienne Gonduron.
Alors c'est vrai que tout ce qui est restauration hors foyer, alors que ce soit les étudiants, mais de manière plus générale, c'est quand même un très très gros sujet, puisque on est sur des bases de prix à la journée très faibles. Hein. Je pense notamment aux EHPAD, aux hôpitaux, aux prisons, où c'est quand même très compliqué. Ces opérateurs font des efforts. Nous on les rencontre, on voit bien qu'il y a des tentatives de faire des choses, mais il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup de produits. Par exemple, la volaille, il y a 80% de volaille qui est importée dans la restauration hors foyer de manière plus global pour arriver à rester dans les prix que vous évoquiez, d'un CROUS à 3,25. Et c'est dommage parce qu'il y a un effet de levier très important hein, pour élever la qualité de l'alimentation à travers la restauration en foyer, parce qu'il y a c'est aussi une évolution de société très forte, c'est-à-dire que plus en plus de gens mangent au moins le midi en dehors de chez eux. Donc il y a un formidable effet de levier pour élever la qualité, pouvoir utiliser plus de signes officiels de qualité, du label rouge, du bio. Mais c'est très lent, c'est très dur et on en reste toujours sur ce problème de coût journée. Hein. Et nous, on dit que voilà, si on reste en dessous de 3€, autour de 3€, on aura quand même du mal à faire bouger les lignes. Il y a un moment donné où il faut que les responsables des collectivités, des administrations arrivent à dégager un peu plus de budget. Mais c'est un peu la même chose dans les cantines. Hein. Il y a des parents qui ont des injonctions très fortes sur la qualité des produits, mais qui veulent pas que ça dépasse un prix habituel. Et est-ce qu'on peut faire mieux avec aussi peu d'argent quand on compare à la téléphonie, à Internet, à tout ce qui est dépensé par ailleurs dans les budgets de tous les jours.
Nora Bozzoni.
Sur les étudiants, je pense qu'il y a trois choses. D'abord, il y a le fait, quand on s'émancipe de sa famille, on a envie aussi de se faire plaisir quand on mange. Donc, c'est pas forcément qu'ils mangent mal, c'est qu'enfin, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, manger un bol de céréales au chocolat le soir sans que les parents l'engueulent. Donc, ça, je trouve que c'est plutôt cool. Il faut pas stigmatiser non plus cette émancipation-là. Deuxièmement, il y a le fait de cuisiner pour soi tout seul. Et moi, j'adore cuisiner. Je suis en couple et j'adore cuisiner pour nous deux. Mais c'est vrai que là, par exemple, mon copain est en vacances et donc j'ai un peu la flemme de me faire à manger, de préparer vraiment que je mange un peu n'importe quoi ou je me fais des petits frichetis sur le pouce. Donc c'est aussi c'est un petit peu chiant en fait. Il n'y a pas le côté convivial de cuisiner seul. Mais il y a aussi l'éducation alimentaire. Et il y a plein d'étudiants qui ne savent pas quoi faire. Et il n'y a pas que les étudiants, mais effectivement, si on avait des cours d'éducation à l'alimentation, peut-être qu'on mangerait mieux quand on a 20 ans.
Nicole Darmon, l'alimentation, est-ce que ça a sa place à l'école?
Ah oui, bien sûr.
Et quelle forme ça pourrait prendre?
L'alimentation, ça a sa place à l'école à travers la cantine, hein, puisqu'il y a 75% des enfants qui mangent à la cantine au moins une fois par semaine et souvent plus. Et il y a énormément de travaux qui sont faits. Et je pense qu'en France, on peut être très fier de la restauration scolaire qu'on a, puisqu'il y a assez peu de pays, voire pas de pays dans le monde, où on offre aux enfants un repas complet, assis à table avec un plat chaud.
Donc, un repas complet et équilibré. Il y a énormément de parents qui se plaignent sur les réseaux sociaux de la qualité des plateaux qui sont servis à leurs enfants, photos à l'appui, avec effectivement parfois féculents plus féculents ou absence de...
Écoutez, c'est facile de faire des généralités à partir de l'exemple, mais évidemment, la science ne fonctionne pas comme ça. Et nous avons fait une étude où nous avons justement regardé quelle était la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire dans les écoles élémentaires. Et on peut dire qu'elle est plus qu'acceptable en termes de contenu nutritionnel, de diversité et de variété. Et effectivement, c'est fait avec des budgets contraints. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi une petite ambiguïté là depuis le début de l'émission, parce qu'on parle de 3 à 4 euros. Alors, il faut voir si c'est 3 à 4 euros par repas ou 3 à 4 euros par jour. Parce que 3 à 4 euros par repas, c'est ce que dépensent les personnes les plus riches en France aujourd'hui.
Mais on parle de 4 euros par jour.
Voilà. Donc quand on est à 4 euros par jour, on est extrêmement contraint et ça veut dire qu'il faut faire des choix drastiques. Et finalement, la restauration collective a plus que ça, puisqu'il tourne, je crois, entre 2,7 à 3 euros par repas. Et ils peuvent faire des économies d'échelle. Donc je pense qu'ils ne sont pas si contraints que ça, et heureusement. Et c'est ça qui leur permet de pouvoir offrir de la diversité sur les plateaux. Et puis, les choses évoluent, puisque maintenant... on va tendre vers des plateaux plus durables, avec le service de plats végétariens plus régulièrement, obligatoire une fois par semaine et voire plus, si les gestionnaires le désirent. Et ça, c'est un point très important. Parce que finalement, une alimentation plus durable, eh bien, elle est aussi moins chère, hein, puisqu'on parle de budget essentiellement, parce qu'elle contient moins de viande. Or, la viande, c'est le principal poste budgétaire, c'est le plus important.
Donc, c'est ce qui coûte le plus cher dans le.
C'est ce qui coûte le plus cher. C'est à peu près 25 à 30% du budget alimentaire des ménages. Donc réduire la viande, ça permet de gagner sur d'autres produits qui sont chers comme les fruits et les légumes. Une autre façon de réduire, c'est les boissons alcoolisées. Les boissons alcoolisées, c'est aussi un poste budgétaire important. C'est et effectivement,
un peu dommage,
ça permet.
Non
Ah ben un peu dommage, ça dépend ce qui est important, mais c'est pas absolument indispensable. Alors si vous voulez pas réduire les boissons alcoolisées, eh bien au moins cessons d'acheter autre chose que de l'eau.
Je disais ça parce que Thibaut de Saint-Paul, lui, a pas l'air du tout pour qu'on limite l'alcool.
Mais
c'est encore un autre débat.
Les eaux minérales et les boissons sucrées, là je pense qu'on peut dire qu'on peut arrêter
bien
de consommer.
Et vous êtes sur France Inter, on écoute Aldous Harding, Picture Picture, et on se retrouve juste après dans le débat de midi.
Fixture, picture of
We'll share a glass together and ride the dunes. I'm riding too.
Le débat de midi sur France Inter.
Et on touche à la fin de ce débat de midi, mais j'ai d'abord une question. C'est la question rituelle que j'aime poser à mes invités. Avec quelle personnalité, vivante ou disparue, aimeriez-vous débattre, Nora Wasoni?
Eh bien, moi, je taillerais bien une bavette avec Marx.
Ah, on a fait peu de jeux de mots sur la nourriture pendant cette émission. Ça manquait.
Je suis une femme, c'est un don de soi. Marx, pas Thierry, Karl. Pour lui dire que s'intéresser au travail rémunéré des femmes dans les usines, c'est bien, mais il faudrait s'intéresser aussi au travail non rémunéré des femmes, le travail de reproduction sociale, et lui dire que pour venir à bout du capitalisme, peut-être faudrait-il s'attaquer au patriarcat.
Nicole Darmon.
Oui, eh bien, moi, j'aimerais débattre avec des enfants de maternelle sur le sens de la vie et les grandes questions philosophiques. La vérité, la tolérance, le bonheur, parce que je crois que ça permet de revenir aux fondamentaux. Et d'ailleurs, j'ai réécouté plutôt en podcast sur votre antenne une émission qui était justement consacrée à ce sujet. Et tous les philosophes et les experts qui étaient là réunis, en fait, s'accordaient pour dire que s'il y avait des ateliers de philosophie dès la maternelle, ça pourrait changer le monde. Alors, je me demande pourquoi on le fait pas.
Thibaut de Saint-Paul, très très vite.
Eh bien, moi, pour faire sérieux, je devrais répondre à un sociologue, mais si je suis vraiment honnête, je répondrai une femme qui est pour moi absolument admirable, qui est Marguerite Yourcenar. Et puisqu'on est au mois d'août, j'encourage tous les auditeurs à ouvrir un de ses ouvrages, où qu'il soit.
Et Étienne Gagneron.
Ben moi, j'aimerais bien avoir une heure et demie avec Nicolas Hulot pour, hors pression, pouvoir poser tous les dossiers environnementaux et agricoles.
Vous n'êtes pas le seul, hein. Il va falloir faire la queue. Merci à tous les quatre et merci à Gilles Gaillard qui était à la technique aujourd'hui. Le débat de midi, c'est fini, ça reprend lundi.